patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigo qui fait marcher son bateau. Attends-moi, tigo.
Bienvenue à la complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, tigo, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour et bienvenue à la complainte du travail. Nous sommes le mardi le 17 novembre. Aujourd'hui, le thème de l'émission, ça va être la syndicalisation et l'EWW. Aujourd'hui, l'émission va être animée par moi-même, Roxane Deniger. Et cette semaine, nous avons la chance d'avoir un invité spécial. Il est délégué syndical de l'EWW. Je vous présente Andrew Fletcher.
Bonjour.
Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? C'est parce que aussi, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile avec différents enjeux de se syndiquer. On le voyait la semaine dernière, dans le coucheur de Belleuil fermait ses portes juste avant le dépôt de l'accréditation syndicale. On sait que le Code du travail empêche les employeurs de menacer les employés de fermeture d'usine s'ils se syndiquent. Par contre, il n'y a rien qui empêche les fermetures d'usines à ce niveau parce que les employeurs évoquent différents motifs de fermeture. Comme là, dans le cas du couche-tard, ils évoquaient la rentabilité. Ce qui arrive, c'est que devant les tribunaux, ils ne demandent pas de justification de rentabilité comme quoi l'entreprise est effectivement moins rentable et qu'elle peut fermer ses portes. Donc, ça, c'est un peu immoral, mais c'est pas illégal. Donc, selon toi, Andrew, pourquoi les syndicats font peur aux entreprises?
Bon, pour répondre à cette question-là, il y a deux raisons principales. La première, c'est le profit. Chaque entreprise, et si tu parles avec un économiste, il va dire ça à toi, le but d'une entreprise, c'est de faire le profit. Donc, il regarde les syndicats en tant qu'instrument qui va diminuer leur profit. Donc, le syndicat les fait peur pour cette raison-là. Et souvent, les corporations comme le couche-tard, ils pensent en termes de toute leur entreprise. Donc, même si c'est juste une place à Belleuil qui voudrait se syndiquer, les gérants de l'entreprise essaient d'imaginer qu'est-ce qui arrive si tout l'entreprise, la corporation soit syndiquée. Puis, ils regardent là, ils pensent qu'il va perdre beaucoup d'argent. Mais une deuxième raison, beaucoup plus profonde, c'est pas juste le profit, c'est au fond une question de la démocratie. C'est que un syndicat menace directement le pouvoir du patron. Le patron, dans son entreprise, c'est comme une loi d'autrefois. Puis le syndicat, c'est quelque chose qui attaque à ce pouvoir. Et c'est pour ça que les patrons détestent autant les syndicats.
C'est parce qu'il ébranle justement le pouvoir qui est mis en place. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher à un employeur d'avoir des employés syndiqués?
Non, pas du tout. Ça, c'est dans la façon de penser des économistes. Parce que les syndiqués sont toujours mieux payés. Par contre, la qualité du travail, quand un syndicat augmente toujours, c'est parce que des gens vont rester plus longtemps à un endroit. Ils vont s'investir beaucoup plus parce qu'ils vont se sentir en sécurité. Et bien sûr, il va avoir une augmentation, comme je dis, de la qualité parce que, comme on investit, on fait un meilleur travail, on est plus heureux au travail.
C'est ça. Et également, je ne sais pas si tous les éditeurs qui nous écoutent sont au courant, mais quand tu travailles au salaire minimum à 40 ans, tu arrives environ à 18 000 par année, alors que le seuil de revenu est à 22 000. Donc, le salaire minimum n'est pas suffisant. Et ce qu'on remarque quand on augmente le salaire minimum, c'est que les gens vont mieux consommer. Ils sont plus en mode survie. Donc, ils vont mieux consommer de la nourriture, des vêtements, etc. Donc, c'est bon pour l'économie d'avoir des bonnes conditions de travail.
Oui, il y a un haut taux de syndicalisation en Europe, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Ce n'est pas des pays pauvres, ça. C'est des pays assez riches avec des bonnes conditions de travail.
Alors, selon toi aussi, quels enjeux nuisent à la syndicalisation?
Bon, Mais là, je vais parler de deux enjeux. Le premier, c'est les médias. Il y a souvent soit une presse ici au Québec hostile au syndicat, ou aussi une presse qui est apathique, qui ne veut pas parler des gains des syndicats, mais seulement des scandales. On peut penser au scandale du FTQ Construction récemment. Oui, c'est un scandale, mais est-ce qu'on entend parler des gains? Est-ce qu'on entend parler des travailleurs qui ont des meilleures conditions? Pas très souvent. Puis si on pense enfin à la presse écrite au Québec, et le gérant, en tout cas, sont antisyndicales. Si on pense à la presse, le Journal de Québec et Montréal, ils ont tout vécu récemment ou vivent encore des lockouts. Donc, les médias sont antisyndicales ou simplement apathiques. Et c'est difficile donc d'aller approcher des gens, en parler des syndicats quand ils entendent souvent des mauvaises nouvelles à propos des syndicats. L'autre raison, c'est aussi les syndicats eux-mêmes. J'ai parlé tantôt du problème de FTQ Construction, mais ça fait la mauvaise presse, puis c'est quelque chose qui aurait dû être évité. Donc, ça, c'est un autre enjeu qui nuise aux syndicats.
Heureusement qu'il y a des radios comme CFLX qui nous permet de nous exprimer sur le sujet.
Heureusement.
Sinon, quel est le réel pouvoir des syndicats? On sait que ça fait 4 ans et demi que le dossier de Walmart traîne devant les tribunaux. Qu'est-ce que les syndicats peuvent vraiment faire?
Bon, là, la question, c'est une question de rapport de force. Souvent, on entend dire que les syndicats, c'est des grosses organisations. Puis c'est vrai au Québec, ils sont, réunissent beaucoup de travailleurs. Mais si on pense à une organisation comme Walmart, ou comme le couche-tard que tu parlais au début de l'émission, c'est des organisations très grandes. Le couche-tard, on pense que c'est une organisation, une compagnie québécoise, mais c'est une coopération internationale. Le couche-tard, c'est aussi les Max dans le reste du Canada, c'est le Circle C aux États-Unis. Ils ont des entreprises en Chine, en Vietnam et d'autres pays. Chaque journée, ils accueillent 25 millions de clients. Chaque journée. Ça, c'est plus que 3 fois la population de Québec. Donc, même un grand syndicat comme le CSN qui essaie de faire quelque chose de bon avec des travailleurs de couche-tard, ils ne sont pas la même taille que l'organisation. Puis l'organisation va les amener en cours dans les tribunaux. Puis, on dit souvent que la justice est aveugle. Puis, c'est vrai que devant le tribunal, devant le commissaire de relations de travail, on est vu comme deux parties égaux. Sauf que les syndicats sont très rares des syndicats qui ont les mêmes ressources que des corporations. Donc, il va payer des avocats, des corporations vont payer des avocats très chers. Et donc, il va trouver des moyens de faire tomber les syndicats. Donc, il n'y a pas de rapport de force égal entre les syndicats et les corporations.
Donc, c'est un portrait assez noir qu'on retrouve dans toutes les causes, en fait, où est-ce qu'on veut se présenter contre quelqu'un qui a beaucoup plus de revenus que nous. On en parlait tantôt des médias et de leur influence sur la population. Est-ce que la population en général, selon vous, appuie les syndicats?
Ben, ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Des gens vont souvent comprendre qu'un syndicat peut les aider. Donc, il va y avoir un appui dans la population, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui travaillent au salaire minimum ou proche, qui n'ont jamais été syndiqués, qui n'ont jamais été approchés par un syndicat. Puis souvent, ces gens-là regardent les syndicats, ou les syndiqués plutôt, comme des enfants gâtés. Donc, il faut travailler contre ça. Mais la façon qu'il faut travailler contre ça, c'est en allant voir ces gens-là, parler du syndicalisme et parler de l'idée de solidarité. Donc, souvent, les gens vont avoir l'impression que le syndicat, c'est là pour avoir la cotisation. il faut apporter une nouvelle idée. Donc, les syndicats, c'est eux, c'est la solidarité, ça va les aider à améliorer leurs conditions.
Oui, il nous reste juste 2 minutes avant la petite pause musicale et la pause publicitaire. Est-ce que tu peux nous nommer les avantages qu'on a à se syndiquer?
Bon, les avantages, il y en a plusieurs. Je pense que le plus important avantage, c'est des meilleures conditions. Souvent, des gens approchent des syndicats parce qu'ils ont des difficultés au travail. Ils veulent avoir des pauses. Ils veulent avoir quelque chose comme le temps pour aller voir les enfants. Ils veulent avoir des choses comme des garderies. Donc, avec un syndicat, on peut collectivement demander plus de droits. On peut aussi avoir une meilleure protection. Parce que quand on a un syndicat, il y a des règles à suivre dans la convention collective que l'employeur doit respecter. Quand on n'a pas de syndicat, ben non, notre employeur peut nous dire journée au lendemain, souvent, allez, on ne veut plus de toi ici. Il y a aussi un support de vos collègues syndicales, d'un délégué syndical. On peut aussi avoir des meilleurs congés, des meilleures journées de maladie. Et, au fond, aussi, un meilleur salaire qui est très important.
Donc, on peut améliorer nos conditions de travail, comme par exemple dans la loi sur les normes du travail, l'ancienneté n'existe pas, alors qu'on va plus la retrouver dans les organisations syndicales.
Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent, je ne défends pas l'être humain. Je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de plier en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants pour créer richesse multinationale. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature, je suis l'ordre mondial.
Grâce à la culture du profit,
je suis l'ordre mondial.
c'est à Félix, 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
Nous sommes de retour à la Complainte du travail, l'émission d'Illusion Emploi. Juste avant la pause, on parlait des avantages à se syndiquer. Est-ce que tu vois des désavantages à se syndiquer?
Oui, il peut voir des désavantages. Ça joue plutôt autour du syndicat et au niveau d'implication des syndiqués. Si on a des gens militants qui veulent vraiment battre pour avoir des droits, il va les avoir. Mais si on a un syndicat qui ne travaille pas pour nous, on peut avoir beaucoup de problèmes. Un de les membres de mon organisation, le IWW, m'a raconté qu'il y a en 2001, il travaillait pour Metro. Elle était syndiquée avec les travailleurs unis d'alimentation et commerce. Puis, à cause de ça, elle gagnait 7,10 $ l'heure. À l'époque, le salaire minimum était 7 $ l'heure. Donc, ce cas-là, c'est que le problème là, c'était qu'elle payait chaque journée qu'elle travaillait 2 $ de cotisation syndicale. Qui veut dire qu'elle était payée moins que le salaire minimum? Parce que pour gagner le salaire minimum, elle avait besoin de travailler 20 heures par jour. Donc, pour elle, il n'y avait aucun avantage de se syndiquer. Le syndicat ne faisait pas le travail. Il n'était même pas prêt à battre pour avoir un salaire qui était illégal. Parce que, comme vous savez, si tu as quelque chose qui amène ton salaire en bas du salaire minimum, c'est illégal. Mais quand on est syndiqué, on ne peut plus... se plaindre au nombre de travail. Donc, il y a des avantages, mais ça joue surtout au niveau du syndicat que tu as.
C'est ça. Et si on s'aperçoit qu'un syndicat ne fait pas l'affaire, il y a toujours possibilité de se désaffilier de son syndicat. Si je ne me trompe pas, ça prend 50 % plus 1.
Oui, c'est ça. En tant qu'individuel, quand on travaille dans un lieu de travail syndiqué, on est obligé d'être syndiqué. Quand le syndicat est obligé de nous défendre aussi, même s'il y a des conflits de personnalité ou quoi que ce soit. Mais si jamais il y a un endroit où des gens ont des problèmes avec le syndicat, ils peuvent soit disaffilier ou changer de syndicat. C'est des règles du jeu. Puis c'est toujours 50% plus 1. La démocratie, c'est le vote majorité.
Donc, on voit qu'il y a des failles dans toutes les organisations, malheureusement. Est-ce que tu veux nous parler plus particulièrement de ton syndicat, l'IWW? Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, l'IWW, ça veut dire en anglais « The Industrial Workers of the World ». C'est un syndicat américain d'origine, fondé à Chicago en 1905, mais internationaliste. Donc, c'est un syndicat qui est présent
au niveau international.
Oui, en Amérique du Nord, en Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc. En français, on dit le syndicat industriel des travailleurs et travailleuses.
En quoi est-ce que c'est un syndicat différent des autres?
Ouais, à part le fait que ce soit un syndicat qui est vraiment international, donc présent sur plusieurs continents, c'est un syndicat qui est fait sur base de bénévoles. Tous les organisateurs syndicaux sont des bénévoles. Donc, on n'a pas de cadre payé. Ça nous donne plusieurs avantages. Ça veut dire que les cadres sont là, pardonne-moi, pas des cadres, mais les organisateurs, les délégués comme moi, sont là parce qu'ils croient vraiment dans la syndicalisation comme moyen d'améliorer la vie des gens. Aussi, un moyen d'introduire des gens à la démocratie. Et ça veut dire aussi qu'on est capable d'avoir des cotisations mensuelles beaucoup plus bas que les autres syndicats. Donc, pour nous, normalement, si tu travailles, tu vas... payer 9 $ par mois à notre syndicat. Ça nous permet d'approcher des gens qui travaillent au salaire minimum ou très proches, qui sont normalement pas approchés par des syndicats.
Donc, c'est aussi, ça peut peut-être être un désavantage au niveau du temps que les gens vont s'investir dans le syndicat, par contre.
Oui, ça c'est vrai. mais on a des moyens pour contrer ça. Comme on dit, tous nos membres doivent venir des organisateurs. Un peu. Il y a une question de combien de temps on peut mettre, mais tous nos membres doivent être actifs. Puis ça nous rend enfin plus forts parce que tout le monde comprend comment le syndicat marche et comprend les mécanismes démocratiques. Et quand il y a un problème, c'est pas quelque cadre ou un exécutif syndical qui peut prendre une décision de faire une telle chose ou une autre, c'est tous les membres du syndicat.
Donc, on peut supposer qu'il y a moins de fraude là-dedans, si on veut, puisqu'il n'y a pas d'argent pour corrompre les gens.
Exactement.
Est-ce que c'est plus difficile de syndiquer les gens lorsqu'on a un syndicat un peu moins connu?
Pas vraiment. Si on pense aux gens qui travaillent au salaire minimum, sont rarement approchés par des syndicats. Donc, pour eux, l'FTQ, le CSN, tous les autres syndicats sont que des abréviations, des lettres. Donc, un nouveau lettre, ça ne change rien. Puis, en fait, ce que change l'opinion des gens, c'est qu'ils rencontrent quelqu'un qui va venir parler de syndicats. Ils s'en foutent de quel syndicat, juste qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux, ça c'est assez important.
Est-ce que le Code du travail s'applique à vous? Parce que, bon, on sait que le Code du travail, c'est tout ce qui régit la loi de se regrouper. C'est tout ce qui cadre les syndicats.
Oui, le Code du travail, c'est quelque chose qui s'applique à toute organisation syndicale, fraternité, union, toute association de salariés, enfin. Donc, ça applique à nous, on doit le respecter. Mais c'est le cadre légal dans lequel on opère.
Donc, vous êtes légalement reconnu au Canada?
Oui, enfin, à ce moment, au Québec, on n'a pas de lieu syndiqué. Ça fait un an qu'on amène ce syndicat ici. On a eu plusieurs tentatives de syndicalisation. Mais pour être reconnu au Québec, il faut être accrédité. Donc, avoir une entreprise où ton syndicat est majoritaire. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas accrédité, mais on est reconnu comme une association de salariés.
OK. Donc, vous avez aussi des conseillers syndicaux qui vont se déplacer sur les lieux de travail pour aider les gens.
Oui, oui. Nous, on opère sur une base industrielle. Ça veut dire qu'on ne concentre pas sur un lieu de travail, mais plutôt dans une certaine industrie, comme, par exemple, des gens qui travaillent en restauration. Puis, on va avoir on a des délégués syndicaux qui vont... regarder tous nos membres, les aider, même si le lieu de travail n'est pas entièrement accrédité, enfin.
Est-ce que ça s'adresse à un certain milieu comme la restauration ou plutôt à une chaîne de restauration?
Ben, notre syndicat est ouvert à tout le monde. Donc, on ne s'adresse pas à un ou autre lieu de travail. Nous, on n'est pas intéressé vraiment avec les entreprises, les chaînes. On est intéressé à syndiquer des gens, des individuels. Donc, même si tu es la seule personne dans ton lieu de travail qui veut syndiquer, tu peux venir nous voir, on va t'aider, on va te mettre en contact avec d'autres gens dans ton domaine. Et tu vas aussi jouer d'une protection du code du travail, parce que chaque fois qu'un travailleur est impliqué dans la syndicalisation, ça lui donne de protection. Son employeur ne peut plus le renvoyer pour n'importe quelle raison. Il faut qu'il demande que c'est une raison valable et non pas parce que l'individu fait la syndicalisation.
OK. Donc, il y a une négociation d'une convention collective entre un individu qui est syndiqué et son patron.
Pas de nouveau champ de convention collective. Pour ça, il faut être plus que 51%. Mais on est protégé légalement, même si on est juste une personne dans un lieu de travail qui est syndiqué.
OK. Donc, si je comprends bien, contrairement aux autres syndicats, vous allez être plus porté à aller syndiquer les petites entreprises, même s'il y a moins de 10 employés.
Oh, oui, oui, c'est ça. On va syndiquer même juste une personne qui, si elle veut. Donc, nous, on est ici pour aider des gens qui travaillent au salaire minimum, qui ont les pires conditions au Québec. Des gens qui ont des difficultés à avoir une stabilité, à avoir des pensions. On est là pour aider ces gens-là. Et souvent, ces gens-là se trouvent dans des petites entreprises. Comme on a des cotisations qui sont très basses, on peut aider ces gens assez facilement. Puis, comme ces lieux de travail sont plus petits, ben, il y a un rapport de force plus égaux entre le syndicat et le lieu de travail.
Tantôt, on parlait de la perspective internationale du syndicat. Est-ce que ça signifie que si, par exemple, on syndique notre McDonald's ici, est-ce que ça veut dire que partout dans le monde, il va être syndiqué?
Pour que ça arrive, il faut qu'on ait 50% et plus des employés du McDonald's sur tous les continents qui soient syndiqués. On espère qu'un jour, on va avoir ça. Mais pour commencer, le fait que ce soit international, ça veut dire que nous, quand on a une campagne, un problème, par exemple, avec un Starbucks ici au Québec ou à New York, des membres de notre syndicat vont faire des piquetages partout en Amérique du Nord, en Europe, en Allemagne, en Australie, partout où on est présent. Donc, même si on peut être capable de mettre des pressions sur l'employeur internationalement.
OK. Donc, quand vous parlez de ligne de piquetage, est-ce que c'est un moyen un peu plus radical que les autres syndicats qu'on connaît plus? Est-ce qu'on peut dire que c'est plus encouragé à la désobéissance civile?
Bien, le piquetage, c'est quelque chose que tous les syndicats utilisent. C'est que n'importe lequel syndicat est régi par le code de travail. Donc, des moyens de pression utiles, comme la grève de zèle, sont souvent illégales. Ici, au Québec, on pense souvent que nos lois sont plus à gauche qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis. Mais aux États-Unis, les travailleurs ont un droit de grève. Ici, le droit de grève est si restreint, et il faut que vous avez soit syndiqué et avoir déjà une convention collective pour faire une grève, c'est si restreint que c'est comme on n'a pas ce droit. Ce n'est pas un droit pour nous, c'est un privilège qu'on peut gagner. Donc, oui, on va battre avec l'action directe, mais il faut qu'on plie aux lois du pays.
Donc, juste avant de terminer, j'aimerais te remercier beaucoup, Andrew, pour ce que tu nous as fait part aujourd'hui. Je sens qu'on pourrait en parler durant encore au moins une autre émission. Juste avant de donner, comment on peut te rejoindre si on est intéressé à se syndiquer?
Bon, notre numéro de téléphone ici en Estrie, c'est le 819-349-9914. Donc, je répète, le 349-9914. On peut aussi regarder sur notre site web. À ce moment, c'est le sitt.wordpress.com. Ça, c'est en français. Et bien sûr, le site web international, c'est le iww.org.
De notre côté, vous pouvez nous rejoindre Illusion Emploi au 569-9993 ou par Internet sur notre site Internet illusionemploi.org. Encore merci beaucoup, Andrew, pour cette émission.
Merci beaucoup.